Merci d'être à l'écoute de l'émission N'en jase sur Boulevard 102.1. On le voit dans nos statistiques de streaming. Vous êtes de plus en plus à être à l'écoute de notre émission. On se sent choyé. Donc, vous pouvez nous écouter d'ailleurs via le BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Vous pouvez nous écouter via votre haut-parleur intelligent en disant « Écoutez BLVD 102.1 » et via le blvd.fm. C'est notre web radio. En attendant de parler avec Julie White de négociations avec les États-Unis concernant l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Pascal, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
On s'était mis une note de vous revenir là-dessus vendredi au minimum. Hein. C'est les travaux qui sont en cours sur le boulevard Laurier. Donc, pour la Ville de Québec, on nous a informé qu'il y en aura. Et ça va entraîner, du même coup, 3 prochaines semaines plus difficiles. Donc, restrictions additionnelles à la circulation dans certains secteurs et par phase. Je vous parle, entre autres, de la circulation automobile qui va être réduite à une seule voie par direction sur le boulevard Laurier, des épisodes de congestion à prévoir. Présence policière aussi qui va être assurée. On veut faciliter les déplacements. On propose le boulevard Hochelaga comme itinéraire alternatif. On veut finalement contourner le secteur entravé. Puis on vous rappelle, de manière générale, 2 voies de circulation par direction, ça va être maintenu pendant les travaux de réfection puis de construction des réseaux d'aqueduc, d'égouts, mais ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année du côté nord du boulevard Laurier. Là.
Ouf, on est installé. Ça va être très difficile, la circulation.
Puis on ajoute à ça d'autres entraves. Ça va être déployé sur les axes névralgiques des secteurs du plateau de Sainte-Foy et de Chaudière. Et ben, ça va être jusqu'à lundi, au moins pour la portion d'Henri IV. Là. Ça va être fermé dans les deux directions. Il faudra emprunter Duplessis pour avoir accès au pont. Très complexe.
Oui, vraiment.
Conversion d'une portion d'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, mais c'est plus dans les plans du gouvernement et c'est ce que rapportent plusieurs médias aujourd'hui. Le projet a été retiré du plan québécois des infrastructures de 2025 et ça a été fait en même temps que le retrait des voies réservées et le pont d'étagement au coin Robert-Bourassa et Le Bourgneuf. Ce matin, on a renchéri là-dessus. C'est tous complémentaires à l'implantation du tramway et du troisième lien, ces projets-là. Donc, on indique que quand les projets seront plus avancés, là, le ministère va réévaluer le besoin d'implanter en complément le réseau de mesures préférentielles en transport collectif et peut-être qu'on va revenir avec ces interventions prioritaires à déployer, mais ça, c'est si c'est requis. Ça a bien fait jaser le maire du côté de Saint-Augustin.
Hein, Sylvain Junot.
Il est venu nous parler puis il en était bien heureux, mais ça va un peu dans le branle-bas de combat de ce qu'on vit avec le tramway.
On a appris que Sylvain Junot était souverainiste. On a appris qu'il va rester à la tête de la ville de Saint-Augustin au moins jusqu'à la fin de son mandat en 2029. C'est à réécouter sur le blvd.fm.
On a appris aussi que le fédéral ne l'intéresse pas, mais que le provincial, oui.
Ouais, c'est ça. Parier en 2030 une candidature au PQ.
Ouais,
je pense que je ne perdrais pas grand argent.
Non. T'as de bonnes chances. Les statistiques semblent bonnes.
Vraiment.
Et je termine, Jeff, avec l'ouverture du détroit d'Ormuz qu'on a appris en début d'émission. Donc, on a déclaré que c'était totalement ouvert grâce à la trêve au Liban. Bon, on a eu une entrevue en début d'émission qui nous amène un peu plus de chair autour de l'os. Complètement ouvert, c'est que ça peut passer. Donc, les cargaisons peuvent passer, mais c'est un peu au risque et au péril de ces pays-là ou ces commerces-là, ces commerçants-là. Et ça ne risque pas de régler tout ce qui est prix du pétrole de façon très rapide. Puis c'est surtout temporaire, c'est jusqu'à la fin du cessez-le-feu du 22 avril prochain.
Exactement. On a parlé avec François Larochelle, ex-diplomate au Liban pour le Canada. En début d'émission, ça va être sur le blvd.fm. On accueille en studio la PDG de Manufacturier Exportateur au Québec, Julie White. Julie, comment vas-tu?
Je vais très bien. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacée. Julie, je voyais ça, c'était à la une du Devoir ce matin où on parlait de l'opacité du gouvernement Carney à l'effet que lors des premières négociations, quand Mark Carney est arrivé, il y avait beaucoup de rencontres interprovinciales. Tout le monde pouvait s'impliquer dans les négociations avec les États-Unis. Mais là, que ça serait devenu un cercle plus fermé. Est-ce que c'est vrai?
Oui, bien, il y a eu des consultations formelles, un processus où tout le monde pouvait envoyer un mémoire, faire leurs commentaires. Mais au-delà de ça, on a très peu d'échanges avec le gouvernement, sur la suite des choses. Il y a différents éléments. Dans le passé, on avait un négociateur pour le Québec à la table, notamment, pour être capable de faire valoir notre voix. On avait des forums de discussion. Et là, ça tarde à se mettre en place. Ça se peut que ça soit correct, mais moi, aujourd'hui, le drapeau que je lève, c'est qu'on est au, sec- Le Québec est le secteur, il est en fait la province la plus affectée par les tarifs douaniers. Desjardins a sorti une étude il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est le secteur manufacturier qui est le plus affecté par ces tarifs-là. Donc, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement fédéral soit très proche de nos préoccupations manufacturières québécoises si on veut avoir une entente qui fait du sens pour notre économie.
Oui, parce que là, j'imagine qu'il y a énormément d'entrepreneurs à l'heure actuelle qui disent « Ben, coudonc, qu'est-ce qui va m'arriver l'an prochain? » Là, cette incertitude-là, ben, ça leur empêche d'innover, ça leur empêche d'investir.
Oui, puis au-delà de cette instabilité-là, il y a des tarifs en ce moment. Puis mm-hmm. on a tendance à l'oublier. L'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre notamment, les autobus, les cabinets de cuisine de salle de bain. Puis depuis le 2 avril, il y a eu une nouvelle méthodologie de calcul des tarifs qui impacte encore plus négativement ces entreprises-là qui utilisent de l'acier et de l'aluminium. Donc, il va falloir qu'on ait une entente à un certain point, plutôt que tard idéalement, pour enlever la pression pour les entreprises. Parce que là, on a certaines entreprises qui ne sont pas juste en mode « je ralentis mes investissements, j'innove pas », sont en mode « est-ce que je peux passer l'année parce que je manque ouais. de liquidité ». Donc oui, c'est inquiétant qu'on n'ait pas autant plus de détails à cette étape-ci. Mais on est obligé de travailler quand même main dans la main avec le gouvernement. Je ne suis pas ici pour dire qu'il faut que je coupe mes liens puis que je sois fâchée après eux puis je déchire ma chemise.
Non, non, en effet.
Moi, je veux qu'ils m'écoutent puis je veux qu'on travaille plus ensemble. Mais j'ai rencontré Mélanie Joly la semaine passée.
Okay.
On a eu des échanges là-dessus, notamment sur les tarifs. Ça a été une bonne rencontre. Bonne rencontre en mode solution pour soutenir nos entreprises. Mais une fois qu'on dit ça, c'est pas elle qui négocie, là.
Ouais, c'est ça.
Ça fait qu'on essaie de rencontrer M. Leblanc, d'asseoir avec les grandes entreprises québécoises. Faut que la perspective québécoise soit réellement entendue parce que sinon, on va avoir un débalancement potentiel mm-hmm. dans l'entente.
Crains-tu que l'instabilité présentement au niveau politique au Québec, bon, Christine Fréchette vient d'arriver, mais on sait qu'on part en élection, il va comme avoir un gouvernement au ralenti. Mm-hmm. Est-ce que tu crains justement cette instabilité-là pour les négociations?
Bien, c'est sûr, c'est pas le contexte idéal pour être dans une révision de la CEUM, alors que cet été, au mois de juin, quand ça va commencer, bien, les partis politiques québécois vont se chicaner un après l'autre sur différents enjeux. Mais j'ai quand même confiance que Mme Fréchette, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui connaît bien l'économie, qui est prête à discuter de ces enjeux-là. J'ai quand même confiance qu'elle veuille agir de façon professionnelle mm-hmm. et sérieuse sur ça et qu'à mettre des bases fortes pour qu'on y arrive. Même si on part en élection, le gouvernement est encore en poste. Là. Il est en ouais. poste tant qu'il n'y a pas un autre gouvernement. Donc, on espère que ça ne changera pas trop les choses. Mais d'où l'importance d'être très rapidement, d'être actif avec le gouvernement fédéral puis de s'assurer que le gouvernement fédéral, là, pas dans 6 mois, s'assoit avec les entreprises les plus touchées.
Il y en a qui s'inquiètent aussi du fait qu'on avait tellement un air d'aller intéressant sur le fait que quand est arrivé Donald Trump, ses tarifs et tout ça, on s'est dit, hey, on va devenir plus fort, on va s'auto-réglementer si on veut entre provinces. Mm. Mark Carney avait dit, faites votre liste d'épicerie, si vous êtes bon joueur, mettez la main à la pâte, on va avancer ensemble. Il semble avoir une petite déchirure ou un manque de possibilités en fait à ce niveau-là.
Oui, mais tu sais, les règles interprovinciales ou même l'exportation, tu sais, la diversification oui. des marchés, ça a été les premières solutions qui ont été mises oui. de l'avant par tout le monde. Puis c'est vrai que c'est des solutions, mais c'est des solutions qui prennent du temps. Tu sais, développer un nouveau marché, par exemple, là, c'est 3 à 5 ans. C'est que, tu sais, de dire aux entreprises, bien, arrête de vendre aux États-Unis, va vendre ailleurs. Ça se fait pas en claquant des doigts. Les règles interprovinciales, ça pourrait aller plus vite. J'étais d'ailleurs hier à la Chambre des communes, je comparais ça dans un comité parlementaire pour parler de ça. C'est facile, là. Les provinces ont juste à dire reconnaissance mutuelle de nos règles, ça va baisser plein de barrières interprovinciales.
Puis pourquoi on ne fait pas? On a peur de nos chasses gardées?
Oui, un peu. Le Québec a longtemps été très, très protectionniste aussi sur ses chasses gardées. Le gouvernement a avancé, on a adopté une loi, mais c'est des choses qui sont lentes. Maintenant, les règles interprovinciales, ça va faire une certaine différence. C'est pas la mesure qui fait la plus grosse différence, mais il y a des choses qui font aller par étapes. Mais c'est sûr, il y a une chose qui est claire, là. On a les États-Unis, on ne contrôle pas Donald Trump, on ne contrôlera jamais, personne ne le contrôle.
J'ai pas ça qu'il ne se contrôle pas.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a essayé de contrôler l'Iran, il n'est pas capable. Bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas.
Mais il faut que les gouvernements regardent dans ce qu'ils contrôlent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Et puis, oui, la question des règles interprovinciales, mais aussi de s'assurer de l'environnement d'affaires, la fiscalité, enlever du poids pas nécessaire sur les épaules des entreprises en ce moment. C'est ça que les gouvernements mm-hmm. doivent regarder puis faire rapidement, en plus d'être là aussi en mode aide d'urgence pour ceux qui sont plus touchés.
Pour rappel, on parle avec Julie White, PDG chez Manufacturier Exportateur du Québec. Je termine l'entrevue avec ça. Julie, justement, t'en parlais. Le gouvernement peut faire des choses pour les entreprises. On s'en va en campagne électorale. Mm-hmm. qu'est-ce que tu veux entendre des chefs de parti pour vous simplifier la vie, vous autres qui vivez avec des gros tarifs?
Oui, puis c'est un bon point, puis on va sortir nos demandes préélectorales très bientôt, c'est qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail.
Ça va nous faire plaisir.
Mais la chose principale qu'on demande aux partis, tu sais, le manufacturier, en passant, on est le plus gros secteur en termes de poids du PIB dans l'économie. Là. On est le plus gros secteur.
Ça vient, vous ne saviez pas, hein?
Non, je savais
pas
ça.
On voit nos yeux en ce moment.
Ben exactement. Puis on connaît peu notre manufacturier. C'est le cœur économique de nos régions. On est à 12,3% du PIB. Il y a 20 ans, on était à 20%.
Aïe, aïe, fait que c'est une chute drastique
de
8%.
Il y a une chute drastique parce que, oui, il y a la mondialisation, il y a des facteurs externes, mais parce qu'on s'en est très peu préoccupé. On ne sait pas ce qu'on fabrique au Québec. On ne sait pas. Tu sais, des fois, les usines, ça a l'air loin, éloigné de ce qu'on fait de notre réalité, mais tout ce qui est autour de nous ici a été fait dans une usine.
Il
n'y a rien qui ne sort pas d'une usine. Donc, il faut qu'on ait des politiques industrielles qui soient vraiment orientées pour relancer le secteur manufacturier. Tous les pays dans le monde, tous les pays de l'OCDE, le G7, sont orientés vers la réindustrialisation. Mm-hmm. C'est qu'il faut, il va y avoir des mesures qu'on va demander dans ce sens-là, mais notre objectif premier, c'est vraiment la revalorisation du secteur. On veut un commitment fort des partis politiques sur le fait que notre plus grand secteur, qui est le cœur économique des régions, je le répète, là, il y a plein de villes et villages, là, même pas si loin d'ici, en Beauce, que s'il n'y a pas l'usine, là, il n'y a rien autour
c'est fermé.
De ça. Donc, il faut là, qu'il y ait un commitment fort sur soutenir, aider, oui, l'allègement réglementaire, mais aussi aider l'investissement. C'est ça le nerf de la guerre. Je sais que c'est peut-être plate là, à dire l'investissement.
Non, mais en effet.
Mais tu sais, quand on n'investit plus dans nos entreprises, quand on n'innove pas, quand on n'achète pas de la machinerie, c'est un signe de détérioration. Puis c'est ça qu'on a vécu dans les dernières années. Il faut renverser complètement le tout de bord.
Je te ferai un comparatif, même principe avec nos infrastructures présentement.
Ah oui.
Qu'on n'a pas entretenu.
Oui. Exactement.
Non, mais c'est dur à relever. Puis c'est un méchant contrat que vous avez.
Bien, c'est pas facile, mais on est vraiment un secteur. Puis moi, ça fait un peu plus qu'un an que je suis en poste, j'ai fait des rencontres avec plein de gens, mais j'ai visité 33 usines. Puis quand tu mets les pieds dans une usine, que tu vas voir comment ça fonctionne, comment c'est innovant.
Sur le plancher des vaches, là.
Comment
être là,
tout ce qui se fait de tellement hot puis ingénieux au Québec, que tu vois des produits que tu penses qu'on... jamais on ferait ici, ça te donne une perspective très différente du secteur. C'est super technologique. Il y a plein de belles jobs. C'est des jobs bien payés. Là. Le salaire moyen, c'est 33$ dans le manuf. Là. Ça fait qu'on n'est pas au salaire
minimum.
Qu'on
fait vivre le commerce local à travers
Exactement.
Ça aussi.
Exactement. C'est qu'il faut aussi être capable de le voir comme ça. Puis les dernières années, on a été très fort sur parler des TI, de l'informatique. Mm-hmm. C'est bien, on en a besoin. Mais c'est pas tout. Puis une nation qui est forte, bien, capable de produire des biens chez elle aussi.
En effet, t'as entièrement raison, Julie. On va être avec vous pour livrer ce combat-là, sans l'ombre d'un doute. Puis je te laisse avec quelque chose de positif, avec Christine Fréchette, ce qu'elle a dit à Mark Carney à son entrée dans son bureau.
Et puis au niveau de la protection de l'économie, avec la discussion, la négociation qui va s'amorcer sur la CEUM, ça va être essentiel pour le Québec de maintenir nos mécanismes de protection puis de propulser nos entreprises puis d'assurer un cadre stable et prévisible pour les relations d'affaires avec les États-Unis.
Alors, Julie White, dis-toi que c'est dans les priorités de la nouvelle première ministre. T'as bien fait ta job.
on les lâche pas, inquiétez-vous pas là-dessus.
Nice. Juste avant, après la pause, Étienne-Alexandre Beauregard est avec nous. On va revenir sur cette première rencontre. Mark Carney, Christine Fréchette, restez à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission d'En Jase.
Jusqu'à 14h.